d'Haïti et des Amériques. Marion, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Élections sous haute tension au Honduras, scrutin général dimanche où l'on doit élire un nouveau président. Mais plusieurs candidats sont morts ces dernières semaines et les réseaux sociaux sont bombardés de messages de désinformation. Week-end prolongé aux États-Unis à l'occasion de la fête de Thanksgiving, fête troublée par une grève au sein du New York Times. Nous ferons ensuite la connaissance d'Antonine Maillet, écrivaine, ancien prix Goncourt, une voix de l'Acadie, cette nation francophone du Canada. Elle a été promue commandeur de la Légion d'honneur en France. Et puis, on refermera cette édition avec le journal de l'Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous emmènerez en Martinique où, pour l'instant, il n'y a pas d'avancée dans le dialogue entre l'État et l'intersyndicale.
Oui, c'était prévisible. Les quatre premières heures de discussion hier n'ont pas donné grand-chose de positif, le préfet n'ayant pour l'instant le pouvoir ni de supprimer l'obligation vaccinale, ni de décréter le plein emploi pour tous.
À tout à l'heure, Benoît. On commence tout d'abord avec ce sujet aux États-Unis. Les Américains profitent d'un week-end prolongé. Ce jeudi marquait la fête de Thanksgiving, jour férié dans le pays. Ce vendredi, ce n'est pas férié, mais c'est le Black Friday, le vendredi noir, une journée de soldes pour les marques. C'est l'occasion de réaliser d'importants chiffres d'affaires. Et c'est ce moment-là que les employés de Wirecutter ont choisi pour faire grève. Ce site d'évaluation et de recommandation de produits appartient au très prestigieux journal New York Times. À Rimley-Pold, certains de ces journalistes se révoltent ouvertement contre leur employeur en solidarité avec leurs collègues de Wirecutter.
Pour chaque produit acheté à travers le lien présenté par le site Wirecutter, le New York Times touche un pourcentage du montant de la transaction. Et justement, pour préserver cette importante source de revenus, la direction du journal a décidé de contourner la grève en recrutant des employés non syndiqués. C'est ce que dénoncent non seulement les représentants du personnel de Wirecutter, mais aussi certains journalistes du New York Times qui ont publié des appels sur les réseaux sociaux invitant les consommateurs à ne pas cliquer sur les produits recommandés dans la liste Wirecutter. Selon le syndicat des employés du site, la grève est censée durer jusqu'à lundi prochain. Cela fait 2 ans que les négociations salariales sont dans l'impasse. Les employés exigent une hausse du salaire minimum et une augmentation annuelle de 2,5%, alors que la direction du New York Times ne veut concéder qu'1%. Le syndicat estime que ce n'est pas suffisant compte tenu de l'importance financière de Wirecutter pour le New York Times.
Et donc, avant d'aller faire des emplettes aujourd'hui, les Américains ont fêté hier une fête mythique, ont célébré une fête mythique dans le pays, Thanksgiving. Mais c'est aussi un jour de deuil pour les Amérindiens. On en parle dans votre revue de presse. Marie Normand, bonjour.
Bonjour. Oui, c'est le 400e anniversaire du rassemblement de 1621. Vous le savez, lorsque les pèlerins ont rompu le pain avec la tribu Wampanoag, mais ce premier rassemblement, qui est devenu plus tard la fête fédérale de Thanksgiving, a également été précédé et suivi d'années de maladies apportées par les colons étrangers et d'années de violences brutales entre les Européens et les peuples autochtones, raconte le Daily Press. Hier, à Plymouth, dans le Massachusetts, des membres de tribus amérindiennes se sont d'ailleurs rassemblés pour pleurer les peuples autochtones du monde entier qui ont souffert de siècles de racisme et de mauvais traitements.
Le Daily Press a demandé à des habitants de la réserve Morongo en Californie du Sud ce qu'ils pensaient de Thanksgiving aujourd'hui.
Après 400 ans, notre peuple est toujours aux prises avec la vérité, répond l'un d'entre eux. Il suggère que chaque Américain réfléchisse au véritable héritage de Thanksgiving avant d'ajouter cette nuance. Les Indiens d'aujourd'hui, nous sommes des miracles ambulants, dit-il. Nous avons survécu à un génocide commandité par l'État. Donc finalement, si aujourd'hui je suis assis devant un grand écran de télé, que je regarde du football et que je mange de la dinde, c'est peut-être le symbole de la réussite ultime ici en Amérique.
On vous retrouve dans quelques instants, Marie Normand, pour la suite de votre revue de presse. Je vous propose de rester aux États-Unis où la prison de Rikers Island fait aussi régulièrement l'objet d'articles dans la presse. Crise, chaos, horreur, voilà des mots qui reviennent bien souvent pour décrire la situation dans ce centre pénitentiaire situé à New York. C'est là, par exemple, que Dominique Strauss-Kahn avait été placé en 2011 en attendant son procès. Rikers Island, c'est en fait un complexe pénitentiaire qui comprend 10 prisons et abrite aujourd'hui près de 5000 détenus dans des conditions critiques. La prison date de 1932. Elle était déjà jugée vétuste, mais avec l'épidémie de Covid, cela n'a fait que s'aggraver. Et ses détracteurs réclament que le projet de fermeture soit mis en place. C'est un dossier de Lubna Anaki.
Rikers Island est l'illustration même d'un problème national majeur. La ville de New York va fermer la prison de Rikers.
Les mots du maire, Bill de Blasio, datent d'il y a 4 ans déjà. Aujourd'hui, Rikers est toujours là et la situation y est plus critique que jamais. Il ne se passe pas un jour sans qu'un incident à l'intérieur de la prison fasse la une.
Rikers Island is being called a crisis.
Chaos and violence.
It is a brutal.
C'est un endroit brutal, horrible et désastreux.
Devastating place.
Lisa Schreibersdorf est avocate commise d'office à Brooklyn.
La situation est totalement injustifiable.
Plusieurs de ses clients attendent leur procès à Rikers et lui décrivent régulièrement un établissement où règne le chaos.
Il y a des dortoirs où il n'y a pas un seul gardien. Quand on téléphone, parfois c'est un prisonnier qui répond et qui va nous aider à joindre la personne qu'on cherche. Ce sont les prisonniers qui contrôlent certaines zones.
Si certaines ailes de Rikers sont livrées aux prisonniers, c'est parce qu'il n'y a plus assez de personnel. Car depuis le début de la pandémie, une grande partie des gardiens et des employés de Rikers manquent à l'appel, en arrêt maladie, un moyen pour eux de protester contre les conditions de travail. La prison est en surpopulation en raison des retards de procès dus à la pandémie. Résultat, ceux qui se présentent au travail enchaînent les heures supplémentaires et sont dépassés.
Il n'y a personne pour faire à manger ou apporter les repas là où il faut. Personne pour faire la lessive ou au moins escorter les prisonniers jusqu'à la laverie pour qu'ils puissent laver leur linge.
Lisa Schreibersdorf et son équipe ont récemment décidé de porter plainte contre New York car selon l'avocate, il s'agit désormais d'une crise humanitaire urgente, surtout avec la propagation du Covid-19. Elle estime que les droits les plus basiques des détenus ne sont plus respectés.
On sait qu'il y a des détenus qui ont des symptômes de Covid, qui sont placés avec d'autres qui n'ont rien. Des gens qui ont été exposés et qui ne le savent pas, et qui continuent de propager la maladie. Les gens vivent les uns sur les autres. Dans l'un des espaces, il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent faire leurs besoins. Les toilettes sont bouchées et débordent d'excréments. Le seul endroit pour dormir, c'est sur le sol. Et donc, si les toilettes débordent, ils dorment dans tout ça.
Everyone is sleeping in it.
Depuis le début de l'année, 14 détenus sont morts à Rikers. 7 d'entre eux se sont suicidés. Face à la colère des familles, des associations et des avocats, le maire et surtout la gouverneure de New York ont décidé d'agir.
Personne, ni détenu, ni gardien, ni famille en visite ne doit subir ce qui se passe à Rikers aujourd'hui.
Afin d'alléger la population carcérale sur l'île, Cathy Hochul a ordonné que des détenus soient libérés et que d'autres soient transférés ailleurs. Une solution qui n'en est pas une, selon Lisa Schreibersdorf.
Même s'ils déplacent 150 personnes avec cette demi-mesure, nos procureurs et nos juges continuent d'envoyer des gens à Rikers. Ils y envoient plus de personnes chaque semaine. Par exemple, ils viennent de mettre 206 personnes en prison.
Les autorités de la ville assurent tout faire pour améliorer la situation au sein du complexe pénitentiaire. En principe, Rikers devrait fermer d'ici 2026. Le plan prévoit de construire 4 autres prisons plus petites pour près de 9 milliards de dollars. Un projet qui risque de prendre plus de temps que prévu et dont va hériter le nouveau maire de New York, Eric Adams, qui soutient la fermeture de Rikers. Lubna Anaki, New York, RFI.
On vous retrouve, Marie Normand, pour la suite de votre revue de presse. On va parler du Honduras, J-2 avant les élections générales. Le pays doit notamment remplacer son président Juan Orlando Hernández, réélu en 2017 sur des accusations de fraude.
Et plusieurs organismes aujourd'hui, comme la Haute Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, appellent à des élections pacifiques et transparentes, note El Heraldo en une. Dans un contexte, on le sait, tendu et polarisé, une grande violence a émaillé la campagne dans ce pays pauvre d'Amérique centrale. Plusieurs candidats ont trouvé la mort ces dernières semaines. Depuis l'annonce des primaires en septembre 2020, l'ONU a enregistré compter 63 cas de violences politiques, 29 assassinats, 14 attaques, 12 agressions, ainsi qu'un enlèvement. Aucune élection ne vaut pourtant la perte d'une vie humaine. Et c'est ce qu'a déclaré la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Une violence alimentée par les réseaux sociaux, si l'on en croit l'observatoire de la désinformation cité par ONCE Noticias. Ce dernier a relevé au cours des deux derniers mois 400 messages quotidiens de désinformation véhiculés par 180 profils Facebook. Probablement le haut de l'iceberg seulement, estime le média hondurien, qui note un pic de désinformation ces derniers jours avec usurpation d'identité de comptes de médias et de journalistes célèbres.
Et la presse hondurienne, Marie, revient ce vendredi sur le profil des électeurs.
Oui, dans ce pays de près de 10 millions d'habitants, 4 électeurs sur 10 sont moins de 30 ans, note La Prensa. Le vote des jeunes pourrait donc être déterminant, selon le journal, même si ces derniers ne sont pas vraiment motivés à se rendre aux urnes. Une jeune femme qui s'apprête à voter pour la première fois se demande si cela servira à quelque chose ou non face, explique-t-elle, au phénomène des achats de vote dans son pays.
Le vote des jeunes et le vote des Honduriens de l'étranger également. Ils sont nombreux à fuir pour des raisons économiques vers les États-Unis, notamment ou pour échapper aux maras, les gangs de trafiquants de drogue dont l'activité a un lourd impact sur leur vie quotidienne.
Oui, ils sont des milliers à partir chaque année de leur pays, à grossir ces caravanes de migrants qui souhaitent demander l'asile dans les pays voisins. Mais seuls quelques 15 000 Honduriens de l'étranger seront habilités à voter dimanche, note La Prensa. Des valises électorales ont d'ailleurs été envoyées dans 15 villes des États-Unis, 2 du Canada et 2 au Mexique. 6 pays d'Amérique centrale et de République dominicaine organiseront aussi un vote pour ces Honduriens de l'étranger.
La revue de presse de Marie Normand, vous restez avec nous, on va parler de l'Acadie. Et l'Acadie, cette nation francophone répartie entre le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. L'Acadie, donc, était à l'honneur cette semaine en France. Une délégation d'une vingtaine de personnes est dans le pays pour raviver la flamme des relations entre l'Acadie et Paris. Des relations formalisées par l'ancien président Charles de Gaulle en 1968. Et à cette occasion, la célèbre romancière et dramaturge acadienne Antonine Maillet a été promue commandeur de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Vous l'avez rencontré, Marie Normand, et vous avez rencontré celle qui a remporté le prix Goncourt en 1979.
Bonjour Antonine Maillet.
Bonjour.
Que représente pour vous cette élévation au grade de commandeur de la Légion d'honneur ?
Je ne peux pas vous dire ce que ça représente, c'est trop gros pour que je le définisse. Mais je peux vous raconter une petite histoire. C'est quand j'étais très très petite, alors je rêvais moi d'être un garçon pour pouvoir aller dans l'armée, pour pouvoir commander. C'était un drôle de rêve pour une petite de mon époque. Eh bien, c'est aujourd'hui que je réalise ce rêve-là. Je deviens commandeur. Au lieu de commander, je reçois les hommages. Et je reçois le plus grand hommage que la France peut offrir. Et je suis d'autant plus contente ou heureuse de cette promotion que je suis acadienne et non pas seulement canadienne. Garder la langue française dans un milieu qui parlait anglais, il fallait continuellement combattre pour garder notre langue française. Donc le jour où l'Acadie a compris que si on ne se défendait pas, on disparaissait, que pour sortir de son isolement, sa fragilité, eh bien il fallait, pour garder la langue, garder l'histoire, garder le souvenir, qu'on le pratique, qu'on l'assume. Là, on a commencé à se défendre. On a fondé une université de Moncton. On a fondé des écoles. On a élu des premiers ministres du Nouveau-Brunswick qui étaient francophones, qui étaient acadiens. Là, je peux dire qu'on est en train de redevenir un peuple.
La France, c'est vraiment un poids important dans ce combat pour cette identité?
Ben, forcément, la France, c'est... À l'époque, nous étions français. Et puis, nous sommes venus, au nom de la France, fonder l'Acadie en 1604. Et après, nous sommes restés là-bas. Bien, on se souvenait toujours d'où on venait. Il y a beaucoup d'Acadiens qui ne parlaient pas anglais quand j'étais enfant. La force de l'Acadie aujourd'hui, c'est de s'allier avec les plus forts qu'elle. Les plus forts, c'est la France.
Qu'est-ce que vous êtes venu demander à Emmanuel Macron cette semaine en France?
En réalité, je n'ai pas grand-chose que je peux demander à un président de la France, sinon de m'écouter quelques minutes, lui demander, souvenez-vous, au nom de la France, que nous existons. Et pour le prouver, venez donc nous voir, venez donc constater des visous que nous sommes là et que nous sommes français, que nous parlons la langue que je vous parle en ce moment, c'est-à-dire le français, avec l'accent qui n'est pas celui des Français d'ici, mais qui est celui de la vieille France. Et nous avons gardé des mots anciens.
Cela veut dire aussi que les liens entre la France et l'Acadie s'étaient un peu distendus.
Les liens varient toujours entre des peuples. Nous luttons maintenant pour que l'Acadie soit reconnue et par le Québec, et par la France, et par le Canada, et par le monde entier. Et je crois que c'est en train de se faire petit à petit.
Merci beaucoup, Antonine Maillet. Un dernier mot, juste de littérature. Vous n'avez jamais arrêté d'écrire.
Mais j'écris toujours, et je voudrais continuer jusqu'à la fin. Même il y a deux médecins qui ne se connaissaient pas, l'un de Moncton et l'autre de Montréal. Tous les deux m'ont prédit que j'allais vivre jusqu'à 108. Alors, si c'est vrai, j'ai encore des années d'écriture.
Voilà le sourire dans la voix d'Antonine Maillet, auteure de Pélagie Lacharette, prix Goncourt 1979. Elle était à votre micro, Marie Normand. Et Marie, cette semaine, la délégation acadienne estime avoir effectivement relancé les liens entre la France et l'Acadie.
Oui, au-delà des espérances même, hein, ce sont les mots du chef de la délégation, Martin Théberge, président de la Société nationale de l'Acadie. Il souligne qu'Emmanuel Macron a promis de se rendre au Congrès mondial acadien en 2024 s'il est réélu. Autre engagement, le maintien des consulats français de Moncton et Halifax et la création d'une école internationale française en terre acadienne. Le Premier ministre Jean Castex a aussi été invité, lui, à se rendre en Acadie lors de son déplacement au Canada. Ce sera début 2022.
Merci Marie Normand.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec vous Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Marion.
En Martinique, les quatre premières heures de discussion entre l'État et l'intersyndicale, non, il fallait s'y attendre, rien donné de véritablement positif.
Eh oui, l'intersyndicale a fini par quitter la table des négociations, le préfet n'ayant, on se l'imagine pour l'instant en tout cas, pas le pouvoir de supprimer l'obligation vaccinale ni de décréter le plein emploi pour tout le monde. Bertrand Caruge.
Si la méthodologie semble avoir connu quelques avancées avec la mise en place de 7 groupes thématiques qui vont devoir discuter, négocier la plateforme de revendication sur le fond, concernant notamment les principales revendications, à savoir l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, les discussions d'hier n'ont pas permis d'apporter d'éléments probants permettant de rassurer quant aux intentions de l'État. C'est ce qu'indique l'intersyndicale. Et pour cause, sans l'appui du gouvernement, le préfet n'a pas de large marge de manœuvre pour envisager une adaptation de la loi en la matière. L'intersyndicale fait aussi référence à, je cite, « aucun signal fort qui n'ait été donné par le préfet sur les perspectives d'avenir pour la jeunesse en termes d'emploi ». Devant le refus du représentant de l'État de mettre en place les conditions d'un dialogue apaisé et constructif, l'intersyndicale a donc annoncé avoir quitté la réunion. Et enfin, elle considère que dans ces conditions, le gouvernement et son représentant porte l'entière responsabilité des faits passés et de tous ceux qui pourraient survenir dans les jours qui viennent.
Bertrand Caruge, la première Martinique. La Martinique où un couvre-feu est désormais en place, comme d'ailleurs en Guadeloupe, de 19h à 5h du matin. Ce qui n'a pas empêché malheureusement des tirs la nuit dernière sur des policiers et des journalistes. Restons en Martinique où sévirait une sorte de raquette sur certains barrages, quelques euros exigés pour pouvoir passer. Ce qui révolte Richard Latif, il est infirmier à Sainte-Marie. Il a été joint par Muriel Tosia.
Je trouve ça quand même inadmissible. Quand j'entends parler des histoires en Haïti, les gangs obligent des gens à payer pour passer des barrages, alors là, je me suis dit non, on a dépassé toutes les bornes. Je ne comprends pas, on va faire des soins. Nous sommes des infirmiers, des aides-soignantes. On amène des soins à des patients à domicile, des personnes qui ne peuvent pas bouger. Vous imaginez? On les arrête sur des barrages pour qu'ils ne puissent pas aller travailler, amener des soins. Moi, je trouve ça inadmissible. J'ai eu plusieurs expériences de la sorte, puisque j'ai pu vivre les événements de la Guyane, il y a 3 ans, il me semble. Jamais j'ai eu à vivre ça. Jamais j'ai eu à payer un barrage pour passer. Là, on demande 5 euros. Non, je pense que la Martinique est tombée bien bas.
Et puisqu'on parle de la Guyane, rappelons que là-bas, le préfet Thierry Kefelec a annoncé hier la levée totale du couvre-feu sur l'ensemble du département de l'Amérique du Sud. Ce sera à partir de lundi. Bon week-end, Marion. À lundi, d'ailleurs.
Merci Benoît Ferrand, bon week-end à vous. Ainsi s'achève cette édition du journal d'Haïti et des Amériques. Merci à Hélène Avril à la réalisation, à Véronique Guémard à la rédaction en chef. Lundi, vous retrouverez Mickaël Ponge à la même place et à la même heure, 13h10 en temps universel.
Jounen yo pa chi manrel.